Oui, alors on se retrouve ensemble. Pour ceux qui étaient là il y a 15 jours, il y a même 3 semaines, lors de notre premier rendez-vous, on avait parlé de cette perspective qu'on s'était donnée d'être les uns avec les autres. On avait vu que la vie chrétienne, c'est pas quelque chose qui se vit tout seul, c'est pas quelque chose que l'on peut vivre tout seul, mais que inévitablement, d'après ce que nous dit la parole, on est appelé à vivre les uns avec les autres. Et c'est en se confrontant aux autres, c'est dans la relation et dans le contact qu'on a avec les autres, eh ben, qu'on mûrit, qu'on grandit. Quand on parle de relation, on peut dire que par quoi elle passe la relation? D'ailleurs, je vais vous poser la question. La relation, quand on commence à établir une relation avec quelqu'un, elle va passer par nos paroles. C'est en se parlant, évidemment, qu'on commence une relation. C'est encore que d'abord, il y a le regard, mais l'étape après, ça va être la parole. C'est avec des paroles qu'on va échanger. Quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit que dans la parole, tout est important. Que notre parole, elle peut avoir du poids. Les mots que nous employons sont importants. Pour bien se faire comprendre, il vaut mieux choisir les bons mots. Le ton que nous employons dans les échanges que nous avons les uns avec les autres, aussi, ça c'est important. Parce que la parole, elle est l'expression de notre état d'esprit. Les paroles que je vais prononcer, le ton que je vais mettre pour les dire, vont révéler quel est mon état d'esprit. Les paroles, elles traduisent nos pensées. Là, je peux penser quelque chose, mais vous êtes incapable de savoir ce que je pense. Allez-y. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous connaissiez ma pensée? Il faut que je parle, il faut que je professe une parole. Et ça traduit ma pensée. Ça va traduire aussi mon humeur, ça va traduire mon état intérieur. Si quelqu'un me pose la question, par exemple notre ami, là, toi, tu me poses la question, Benoît, est-ce que tu as passé une bonne semaine? D'ailleurs, tu me poses la question à chaque fois qu'on se voit le samedi soir. Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Alors, je peux te répondre, bah oui, j'ai passé une bonne semaine. Tu peux me poser exactement la même question et je peux te répondre en disant, oui, j'ai passé une bonne semaine. Vous voyez, j'ai dit les mêmes mots, mais je n'ai pas employé le même ton. Et donc, ça traduit forcément que je n'ai pas forcément vécu les choses telles que je les formule. Si je suis en train de, je sais pas, d'installer l'ordinateur et puis que quelqu'un vient me dire, est-ce que tu veux que je t'aide? Et je peux dire, non merci, ça va. Ou je peux dire, la même question, est-ce que tu veux que je t'aide? Je peux dire, non, non merci, non, ça va. On est d'accord, ça ne veut pas dire exactement la même chose. En gros, ce que je dis, c'est poliment, ça va aller, je te connais, je sais comment tu t'y prends au niveau technique. Ok, vous voyez donc, la parole, elle n'a pas forcément la même valeur en fonction du ton que j'emploie. Ça veut dire que nos paroles ont une force extraordinaire. Une force, je crois, que l'on sous-estime. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment qu'on en fasse le thème de ce soir. Parce que dans la Bible, alors il y a vraiment des tas de versets, des tas de passages qui parlent de nos paroles, qui parlent de notre langue, de la bouche. Mais je voudrais qu'on se penche ensemble sur un texte qui se trouve dans la lettre de Jacques, parce que c'est un passage tout entier qui parle de la force de nos paroles, du pouvoir des mots que nous prononçons. Ça commence au verset 1 et ça va jusqu'au verset 12. Et on va lire ensemble ce texte-là. On va commencer au verset 1. Ça va? Tout le monde? Oula. Tout le monde voit le texte là?
Oh
Ok, très bien, je pense que tu es le porte-parole de l'auditoire. Jacques, il a été amené à traiter de cette question parce qu'il y avait dans son église des gens qui voulaient devenir des prédicateurs. Il dit, mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants ou des prédicateurs, car vous savez que nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. Celui qui enseigne, celui qui prêche, évidemment, il prononce des paroles. Et il y en a certains dans l'église de Jacques, là, qui étaient comme fascinés par le fait d'enseigner la Bible aux autres. Ils étaient admiratifs du prédicateur, ça leur faisait un effet particulier. Et Jacques, il veut mettre ces personnes en face de leurs responsabilités. Il est en train de leur dire, mais oui, vous voulez prendre la parole, vous voulez exercer là, cette fonction, mais si vous l'exercez, sachez que vous aurez à répondre de vos paroles et que les paroles que vous allez prononcer engage votre responsabilité. Ils devront répondre devant Dieu des paroles qu'ils vont prononcer. Alors bon, ça pose un autre problème, ça pose le problème de la comparaison, de l'envie, de la jalousie, et ça on en parlera certainement un jour prochain, parce que si on veut bien vivre les uns avec les autres, il vaut mieux pas qu'il y ait d'envie ou de comparaison. Et Jacques en vient ensuite à parler de la responsabilité dans l'usage que nous faisons de nos paroles, d'une façon plus générale. Alors, on continue la lecture. Au verset 2, il dit « Nous commettons tous des erreurs, de bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de tenir en bride tout son être. » Un homme parfait. Jacques estime que celui qui parvient à pleinement maîtriser ses paroles est parfait. Alors, parfait, ça fait un peu peur. Dire, voilà, quelqu'un qui est parfait, on a l'habitude de dire, mais jamais, personne ici-bas n'est parfait. Il n'y a que Jésus qui a été parfait. Donc, il faut le comprendre dans le sens de mûr. Celui qui peut maîtriser ses paroles fait preuve d'une réelle maturité. Il est mûr. Si Jacques dit ça, c'est qu'il fait entendre que maîtriser sa langue, c'est certainement ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y a de plus dur. Donc, celui qui sait maîtriser ses paroles est quand même parvenu à une certaine maturité. Et si nous prenons la parole de Dieu au sérieux, si ça c'est quelque chose qui compte pour nous, ça veut dire que nous sommes appelés à mûrir dans la façon dont nous parlons, dans l'usage de nos paroles. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Jacques y prend plusieurs images pour bien se faire comprendre de ses auditeurs. Alors je voudrais reprendre ces images avec vous en espérant justement que ça puisse aux uns et aux autres nous parler. Il prend tout d'abord l'image du cheval. Dans les versets 2 et 3, il dit que celui qui peut maîtriser ses paroles est capable de tenir en bride tout son être. Première allusion au cheval, la bride, hein, c'est ce qu'on tient dans les mains pour conduire le cheval. Nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent et nous pouvons ainsi diriger leur corps tout entier. L'image du cheval. Je ne sais pas combien ça pèse un cheval. Alors, j'ai fait un peu de recherche. Je me suis renseigné ce soir quand même pour avoir un peu des choses entre les mains. Le cheval, la variété de cheval la plus grosse et la plus lourde, c'est une tonne, 1000 kilos. Alors, mais c'est vraiment des gros chevaux.
Tu veux dire les chevrons?
Alors, ça doit être ce genre de cheval, ouais. Bien costaud. Et vous en avez certains qui sont... Alors, vous savez, il y a des chevaux minuscules, là, qui pèsent, je ne sais pas, moi, 25 kilos, 50 kilos. Donc, ça peut aller d'un extrême à l'autre. Mais disons que les chevaux qu'on a l'habitude de voir dans nos contrées, dans nos régions, par chez nous, ça fait quoi? Je ne sais pas, 500 kilos au moins, je pense. Eh bien, une bride, c'est ce qui permet de maîtriser un animal de cette taille-là et de ce poids-là. Je pense que le cheval, il a assez de force et il a assez de puissance pour faire ce qu'il veut. Sauf que si on lui met un mort dans la bouche et qu'on lui met une bride, donc ce qu'on appelle la bride, voilà, la bride, c'est l'ensemble des lanières qui entourent la tête du cheval et puis là qui se termine dans la main de celui qui conduit le cheval. Et le mort, c'est ce qui est placé dans la bouche. C'est un instrument métallique qui est placé dans la bouche du cheval. Et ce mort, il sert à faire pression à la fois tout autour de la bouche, mais aussi sur la langue. Hein, le mort se pose sur la langue. Donc c'est d'ailleurs intéressant par rapport à l'image qu'emploie Jacques. Si la bride n'exerce pas une pression assez forte sur le mort, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Le cheval, il s'emballe. Le cheval, il reprend le contrôle. Et il part à toute vitesse, il galope droit devant lui. C'est arrivé déjà?
Oui.
Oui, c'est arrivé. Ça fait peur, hein?
Avec mon cheval.
Avec ton cheval? Bah ouais. Ouais. C'est très dangereux parce que le cheval, il peut s'emballer soit parce qu'il a mal, il reçoit une douleur, soit parce qu'il a eu peur. Un autre cheval s'est approché trop près.
Je vois des coups.
D'accord, là il est passionné de cheval, Benoît. Ouais. J'ai trouvé le bon thème ce soir, la bonne image. Merci, Jacques. Donc en fait, il peut avoir peur, il peut avoir mal, il peut recevoir un coup. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il fonce tout droit devant lui, tout droit, tout droit. Et c'est très dangereux pour le conducteur, parce que le conducteur... En fait, un cheval, il tourne sans ralentir pratiquement. Donc celui qui est dessus, le risque évidemment, c'est qu'il tombe. Le cheval peut se blesser, il peut foncer sur quelque chose et lui-même se blesser très gravement. Ça, c'est une réaction là, du cheval qui s'emballe. Et vous avez des promenades qui peuvent se transformer en galère. Hein, c'est ce que Benoît a vécu, visiblement. C'est très dangereux.
Le mec.
Avec quoi? Avec le
mec.
Avec le mec. Oui, il part avec le mec, dessus, voilà, exactement. Merci Benoît. Il y en a un qui suit, merci. Donc Jacques parle ici de la capacité à contrôler nos paroles. Il dit, de la même manière que le cavalier doit contrôler son cheval, nous, nous devons contrôler nos paroles. Le contrôle de nos paroles aura un impact sur nos relations les uns avec les autres. Parce que la parole aussi, elle peut s'emballer. La parole, elle peut être hors de contrôle. Il y a des mots qui sont lâchés à cause de la douleur. Comme le cheval s'emballe à cause de la douleur ou de la peur, il y a des mots qui sont lâchés de la même manière, à cause de la douleur, à cause de la peur, à cause de la colère. Il y a des mots qui, quelquefois, dépassent nos pensées. C'est ce qu'on dit, c'est l'expression qu'on utilise. Ces mots ont dépassé ma pensée. Mais ces mots, une fois qu'ils sont prononcés, ils vont avoir un impact négatif sur notre entourage. Ils vont avoir un impact négatif auprès de ceux qui les ont entendus, auprès de mes parents, auprès de mon frère, auprès de ma sœur, auprès de mon ami, auprès des gens qui sont dans l'église, dans le groupe de jeunes. Vous voyez, ça peut avoir causé une vraie blessure. Et vous avez des amitiés qui ont été brisées simplement à cause de paroles. C'est même pas une action, c'est pas forcément quelque chose que l'ami a fait et qui a déplu, c'est une parole qui n'était pas adaptée, une parole qui a dépassé la pensée, une parole qui n'a pas été contrôlée. Ça peut se comprendre des fois que, bon, on n'est pas bien, on est fatigué, on est dans l'épreuve, on est touché par la tristesse. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on est moins vigilant et la parole, elle s'emballe beaucoup plus facilement. On peut le comprendre, ça. Et il faut que les uns par rapport aux autres, nous comprenions que certaines personnes sont dans des passes un peu compliquées, un peu difficiles, sont dans cette situation et on sait que là, il peut y avoir des réactions de ce type-là. Mais quand on est comme ça, fondamentalement, il faut se poser cette question. Est-ce que mon humeur justifie que je remette en cause mes relations avec les autres? Est-ce que mon humeur me permet de prononcer n'importe quelle parole? C'est facile de trouver des excuses après. Dire « Ouais, mais ça va pas, et puis il m'a énervé, il n'avait pas à me parler comme ça, j'ai pas aimé son comportement, son attitude, non, non, non. » Mais est-ce que ça justifie vraiment, fondamentalement? Je crois pas. C'est pour ça que Jacques nous appelle à garder le contrôle de nos paroles. Il y a une prière de David que j'aime beaucoup, que j'aurais partagée avec vous, parce qu'elle peut vraiment être inspirante pour chacun d'entre nous. C'est celle qu'on trouve dans le psaume 141, où David s'adresse à Dieu, il dit « Seigneur, monte la garde devant ma bouche, surveille la porte de mes lèvres. » Ça, c'est une belle parole. Ça, c'est une belle prière. Et là, elle est susceptible de nous inspirer les uns les autres. David se sent responsable de ses paroles. Il est conscient qu'il peut avoir du mal à les maîtriser. C'est pour ça qu'il s'adresse à Dieu. Il dit « Mets une garde, sois la sentinelle de mes lèvres, sois la sentinelle de ma bouche. Je peux avoir du mal à maîtriser ces paroles. Alors, je te demande de m'aider. » Il place sa responsabilité devant Dieu. David sait qu'il est responsable de ses paroles, mais il sait qu'il peut des fois ne pas les contrôler. Alors, il demande à Dieu son aide. Et c'est sa relation avec Dieu qui le pousse à se montrer responsable. « Je sais que je répondrai de mes paroles devant toi. Un jour, j'aurai à en répondre devant toi. Alors, je veux avoir de bonnes paroles. Alors, je m'adresse à toi et je te demande ton secours. Je te demande ton aide pour que ce soit de bonnes paroles que je prononce. » La qualité de ses relations avec les autres dépend de la qualité de sa relation avec Dieu. Vous voyez qu'il y a forcément là un lien entre les deux. Parce que c'est sa relation avec Dieu qui va lui permettre de maîtriser sa parole, de garder sa parole. Ça, c'est la première image, l'image du cheval. Deuxième image, l'image du bateau. On va voir ensemble, on continue, Jacques 3, verset 4. Ou bien pensez aux navires. Même s'ils sont très grands et que des vents violents les poussent, on les dirige avec un très petit gouvernail et ils vont là où le pilote le veut. Vous voyez à peu près ce que c'est qu'un gouvernail. Hein, vous avez déjà vu des... Non, tu ne vois pas? Ok, je t'explique alors. C'est le manche là, qui est à l'arrière du bateau et qui permet de prendre la direction que l'on veut. Si on veut aller à tribord, si on veut aller à bâbord, hein, on tourne la barre du gouvernail, hein, puisque la barre qu'on a dans la main, elle se prolonge jusque dans l'eau. Et puis, c'est ce qui permet au bateau de prendre la direction que le commandant ou le pilote y veut. Le gouvernail, proportionnellement au bateau, ce n'est pas très grand. C'est de la même manière que, justement, et c'est pour ça que Jacques fait cette analogie, que la langue, ce n'est pas quelque chose qui est très grand. Donc, ça veut dire que le bateau, même s'il est ballotté par le vent, à partir du moment où on a un gouvernail, eh ben, on peut mener le bateau où on veut. Donc, vous voyez encore comment Jacques utilise une image pour parler de la nécessité de maîtriser les paroles. Même s'il y a des choses qui nous poussent, même s'il y a des choses qui nous conduisent à exprimer des paroles, peut-être un peu violemment, au contenu pas convenable, eh ben, Jacques dit non, là, prenez le gouvernail, là, dirigez votre langue. Regardez ça un peu. C'est impressionnant. Ça, c'est le plus gros bateau du monde. Alors, ben ouais, hein, t'as vu ça? Le plus gros bateau du monde. Il s'appelle l'Emma Maersk. J'aime bien cette photo parce que vous avez vu la taille des autres bateaux. Ce sont des bateaux normaux, ça. Ça, c'est là à gauche, c'est le mien, là. Donc, vous avez vu l'immensité de ce bateau. L'Emma Maersk, c'est le plus grand bateau du monde en service. Un porte-conteneur danois. Il fait 400 mètres de long. Il pèse 220 000 tonnes. 220 000 tonnes. Il peut transporter 157 000 tonnes de cargaison. Et il y a seulement 13 personnes dans l'équipage pour le diriger, pour le conduire. Et comment il peut changer de direction? Il peut changer de direction, ce truc énorme, ce monstre, grâce au gouvernail. Et donc, le gouvernail, comparativement à la taille du bateau, c'est pas grand-chose. Mais c'est ça qui va permettre au bateau d'aller à bâbord ou à tribord ou à garder le cap, aller droit devant. Il y a un autre bateau qui a été le plus grand navire de croisière de son temps, qui était surnommé le temple du luxe et du divertissement. Ah, je vais vous montrer une photo de ce qu'il était. Vous voyez, c'est un bateau magnifique, un bateau de plaisance, pas un porte-conteneur là. Est-ce que vous savez comment il s'appelle? Oui, c'est ça. Non. C'est le Costa Concordia, exact. Costa Concordia, 300 mètres de long, 300 mètres de long, capacité 3800 passagers, 1000 personnes d'équipage. Mais là, évidemment, il y a les serviteurs, il y a les stewards, il y a les cuisiniers, il y a ceux qui font les animations. Il a été mis en service le 7 juillet 2006, et vous en avez tous entendu parler, parce qu'il s'est échoué 5 ans et demi plus tard, le 13 janvier 2012, en raison d'une erreur du pilote et d'une très très mauvaise utilisation du gouvernail. Vous savez ce qui s'est passé? Il a voulu s'approcher le plus près des côtes d'une petite île pour pouvoir faire un coup de sirène, dire bonjour aux habitants, c'est ça. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a heurté un rocher et le Concordia, voilà ce qu'il est devenu. C'est ça le Concordia maintenant. Il s'est échoué. Il y a une trentaine de morts. Une mauvaise utilisation de la langue, ça peut faire la même chose. Ça peut mener au naufrage. Parce que on a des paroles inappropriées. On a des paroles qu'on n'a pas mesurées qui peuvent nous mener à l'échec dans nos relations avec les autres. Il y a des gens qui prennent la parole sans le souci de s'adapter aux autres, de s'adapter à qui ils parlent, à qui ils s'adressent. Alors, ils manifestent beaucoup d'assurance comme ça, mais en fait, c'est gênant les paroles qu'ils prononcent. Moi, je me souviens j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Alors, ça remonte à des années. Je cherchais pas à savoir qui c'est. Vous le connaissez pas. Non. Il est reparti. Il est passé à Angers. Il était de passage à Angers. Et c'était un gars qui avait vraiment beaucoup, beaucoup d'assurance. Extrêmement sympathique par ailleurs. Mais lui, il avait reçu l'appel de Dieu. C'est ce qu'il disait. Et sauf qu'il le faisait sentir d'une manière assez présente. D'abord, il disait à tout le monde qu'il avait reçu l'appel de Dieu. Et puis, il se servait de ça un peu pour faire valoir son point de vue. Alors, dans une conversation, au bout d'un moment, il disait « Bah ouais, mais bon, le Seigneur m'a appelé. » Donc, c'était vraiment très, très gênant. Et ça se voyait qu'il n'arrivait pas vraiment à avoir de bonnes relations. Parce qu'il mettait les gens mal à l'aise. Il ne s'adaptait pas à son auditoire. Il ne s'adaptait pas aux gens qui l'entouraient. Je ne sais pas s'il est devenu pasteur ou s'il exerce le ministère de la parole aujourd'hui. Mais j'ai vu qu'il avait plutôt fait le vide autour de lui. Donc, il allait plutôt dans le sens contraire. Il était en train de faire naufrage par rapport à ce qu'il avait comme objectif. Si nous nous adressons comme ça aux autres sans prendre garde à eux, les gens ne vont pas se sentir à l'aise et les gens ne vont pas rechercher notre compagnie et on va faire naufrage dans nos relations. Il y a un conseil qui nous est donné par Jacques lui-même, un peu plus haut dans sa lettre, au chapitre 1, verset 19. Il dit « Rappelez-vous bien ceci, mes chers frères, chacun doit être prompt à écouter, mais lent à parler et lent à se mettre en colère. » Alors voilà, ça c'est un bon conseil, c'est très pratique. Il dit qu'il vaut mieux écouter que de parler. Parce que écouter, ça permet de comprendre l'autre. Ça permet de se mettre à sa portée. Si on écoute l'autre, ben je vais le comprendre. Je vais saisir, je vais cerner sa personnalité. Et donc ça va permettre évidemment de m'adapter. Je sais qu'il y a des choses peut-être que je ne dirai pas, que je ne prononcerai pas, parce que ça risque de froisser cette personne, ou elle risque de pas bien le comprendre. Ouais, en écoutant, on apprend à connaître les autres. Et la relation, elle sera forcément de meilleure qualité si je sais écouter. Vous savez à combien la vitesse d'un bateau mouche ? Vous savez à combien ça va un bateau mouche ?
400 ?
400 ? 400 km/h ? Oui. Bah, t'en auras rien à voir. Un bateau mouche, c'est pour visiter, c'est pour se promener. Vous avez déjà fait ça ? Il y en a peut-être à Paris là, qui sont sur un bateau mouche, je ne sais pas. Bateau mouche, ça permet de naviguer sur la Seine quand on est à Paris et de regarder tous les monuments. Vous passez devant Notre-Dame de Paris, vous passez sous le Pont Neuf. Vous voyez, c'est sympa une promenade en bateau mouche. Ça permet de voir les paysages sous un autre angle. Exactement. Vous pouvez faire la même chose sur la Sarthe ou sur la Maine. Moi, j'ai fait ça sur la Maine avec l'église, avec les retraités. On avait fait la promenade en canoë 2 jours avant. Et après, j'ai fait la promenade en péniche ou en bateau mouche sur la Maine, la Mayenne, là, le tour de l'île Saint-Aubin. C'était très sympa. J'avais envie de pagayer pour avancer un petit peu plus vite, mais c'était fort sympathique. Donc, à quelle heure, à combien de kilomètres heure va un bateau mouche ? 20 kilomètres heure ? Non. Sur la Seine, un bateau mouche n'a pas le droit de dépasser 12 km/h.
Ah bon ?
12 km/h. Alors, il y a rarement des accidents de bateau mouche. Ça arrive. Mais genre, quand tu arrives et qu'il y a une priorité, tu as le temps de freiner, quoi. 12 km/h, tu fais pas... Enfin bon, toi, tu peux éviter l'autre bateau. Par contre, l'offshore, à combien de kilomètres ça va, ça ? Ouais, je l'ai entendu. 300 km/h. 300 km/h. Et là, pour le coup, même si tu as un accident de bateau mouche, par rapport à un accident de offshore, ça n'a rien à voir. Le offshore, s'il se retourne, le pilote, il peut être décapité. Parce que s'il est à 300 km/h, qu'il est lancé à 300 km/h et qu'il se retourne, bah, c'est sûr, là, il n'a plus de tête. Hein. Et bien, c'est sûr que. J'ai déjà fait du bateau mouche. J'avoue que j'aimerais bien faire du offshore. Ça doit être une super impression, hein, de filer sur les eaux comme ça. Mais sur le plan spirituel, il vaut mieux être comme un bateau mouche plutôt que comme un offshore. Parce que le naufrage, il peut être terrible. Il peut être irrémédiable. Et ça peut être très, très douloureux. Très, très douloureux. Donc, bravo, Jacques, pour cette image du bateau. Dernière image que Jacques utilise, l'image du feu. Versets 5 et 6. Pensez au petit feu qui suffit à mettre en flamme une grande forêt. Eh bien, la langue est pareille à un feu. C'est un monde de mal installé dans notre corps. Elle infecte notre être entier. Elle enflamme tout le cours de notre existence d'un feu provenant de l'enfer même. Wow. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère, là, Jacques. Hein. Alors là, vous avez vu ce qui s'est passé encore cet été. Tous les étés, dans l'actualité, on nous parle des incendies qui ravagent soit le sud de la France, soit aux États-Unis. Il y a eu des grands incendies ces dernières années. Mais cette année, c'est l'Espagne qui a été touchée. C'est la Catalogne qui a été touchée par des incendies au mois de juillet, là, en 2012. Tiens, vas-y, montre la photo. Il y a eu 14 000 hectares de détruits. L'incendie, il a duré que quelques jours. Il y a quand même eu 4 morts. Et la raison de cet immense incendie, de toutes ces flammes qui ont embrasé une partie de la Catalogne, la raison c'est ça. Un tout petit truc, quelque chose de minuscule, un mégot. C'est ça qui a été la cause de ce que vous voyez en dessous. Faut pas grand-chose, hein. Une petite chose mal contrôlée peut avoir des conséquences catastrophiques. Et c'est la même chose pour la langue, c'est ce que nous dit Jacques. Une fois qu'une parole est prononcée, elle nous échappe. On n'est plus le propriétaire de nos paroles. C'est terrible, ça. Elle est reçue par d'autres personnes, et les personnes qui reçoivent cette parole peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ça, je m'en aperçois en tant que prédicateur. Vous êtes sûr, des fois, j'ai des drôles de surprises. Il y a des gens qui viennent te trouver et disent « Oh, ouais, j'ai bien aimé quand tu as dit tout à l'heure dans ton message, il dit un truc, mais je n'ai jamais dit ça. » Ça m'est arrivé plusieurs fois. La parole que je prononce, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous allez rentrer chez vous, vous allez pouvoir parler de la prédication, et puis vous allez dire « Xavier, là, il a parlé de Josué. » Bah, pourquoi pas, moi, je peux pas... Faites ce que vous voulez de la parole que je prononce. Et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Il faut beaucoup de sagesse, non seulement dans la façon de dire les choses, la façon de proférer des paroles, mais il faut aussi beaucoup de sagesse quand on reçoit les paroles. Ce que dit Jacques en prenant l'image du feu, c'est que les paroles sont capables de destruction. Une parole qui paraît anodine, vous savez, une petite vanne au passage comme ça, qui paraît pas méchante. Je dis ça, mais je veux pas faire de mal. Une petite réflexion qui est dite au mauvais moment. Une remarque qui semble critiquer, qui semble remettre en cause. Un jugement, une insinuation est prononcée par rapport à quelqu'un. Ça peut mettre le feu aux poudres. Ça peut avoir un effet destructeur. Soyons vraiment vigilants en ce qui concerne les informations que nous véhiculons sur autrui. Comme je le disais à l'instant, quelquefois, on donne des informations sur quelqu'un, mais ce sont des insinuations. On peut partager une impression sur quelqu'un qui ne repose pas sur des faits objectifs, mais c'est simplement l'impression que j'ai de cette personne. Ça peut être une parole qu'on nous a confiée et que je vais dévoiler. C'est terrible, ça. C'est terrible, ça fait un mal immense. Quand quelqu'un nous a fait confiance et que cette parole, on la lâche, ça peut être destructeur. Par nos paroles, nous pouvons véhiculer des rumeurs, des informations qui ne sont pas vérifiées, non fondées. Ça peut faire du mal. Vous avez déjà été victime de ça, de la rumeur? De fausses informations? Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé même dans l'église, pour tout vous dire. J'ai eu une période dans ma vie où j'avais beaucoup, beaucoup de mal à trouver du travail. Le gouvernement, à l'époque, avait mis en place ce qu'on appelle des emplois jeunes. Alors, évidemment, vous ne connaissez pas ça pour la plupart d'entre vous, parce que vous étiez en culotte courte quand ça avait été mis en place. Bon, bah, j'avais postulé pour les emplois jeunes, parce que, par ailleurs, je n'avais pas trouvé, de travail. J'avais passé plusieurs concours, postulé, fait des, comment on appelle ça, des candidatures spontanées, même dans des entreprises. Et puis, ça n'avait pas fonctionné. Alors, je dis, je vais faire les emplois jeunes. Et j'avais dit comme ça, oui, je vais faire les emplois jeunes, mais ce n'est pas très, très intéressant, les emplois jeunes. Hein. C'était vraiment des petits boulots, on va dire. Et ce que j'avais lâché là, c'est devenu, dans l'église, Xavier, il fait le difficile. Xavier, il ne cherche pas vraiment du travail. Le pire, bon, ça aurait pu être dans l'église, mais le pire, c'est que c'est remonté jusqu'au conseil d'anciens. Oui, ça a été rapporté. Et là, les anciens, ils ont parlé de moi, ils ont dit, mais Xavier... qu'est-ce qu'il fait? Il ne trouve pas de travail. Il dit, non, c'est parce qu'en fait, il ne cherche pas. Il attend d'avoir le super truc qui va lui tomber. Il ne veut pas se donner la peine. Quand ça m'est revenu, quand j'ai eu le retour par d'autres personnes, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'étais en train de me désoler, moi, de ne pas trouver du travail. Je faisais tout ce que je pouvais. Et c'était une information complètement contraire qui circulait dans l'église et auprès des anciens, auprès des pasteurs. Ça, c'est destructeur. Donc, je ne me suis pas laissé gagner par ça parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas que l'amertume soit dans mon cœur. Et puis, de toute façon, je savais que ce n'était pas vrai. Mais quand même, ça touche. C'est terrible d'être l'objet d'une fausse information. Alors, soyons vigilants. Vous savez, moi, il y a une règle que je me suis imposée. C'est que lorsque j'entends dire quelque chose à propos de quelqu'un, je vérifie cette information. Et de même, par rapport à mes paroles, je ne prononcerai jamais une parole sur quelqu'un que je ne pourrais pas prononcer si cette personne était devant moi, si cette personne était présente. C'est une façon de mettre une sentinelle, de mettre un vigile, là, au niveau de mes paroles. Alors ça, je vous le laisse, pour que vous puissiez y songer, là, et savoir réagir par rapport à ce genre de situation. Dans le proverbe, dans les proverbes, au chapitre 10, verset 11, il est dit « Les paroles du juste sont source de vie, les paroles des méchants cachent la violence. » Les paroles du juste sont source de vie. C'est le contraire du feu, la source. La source, c'est le contraire du feu. Ça apporte la vie au lieu de la destruction. L'eau, c'est ce qui fait grandir la végétation. L'eau, c'est ce qui donne la vie, c'est ce qui irrigue la vie. Et je crois que nos paroles, pareil, elles sont appelées à faire grandir les autres. Nos paroles, elles doivent être des paroles qui vont communiquer la vie, qui vont encourager les autres, qui vont leur faire du bien. Des paroles à propos qui vont les désaltérer, les rafraîchir, les renouveler. Ça, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, si la parole est quelque chose de sérieux pour nous, eh ben, c'est ce que nous sommes appelés à faire. C'est ce que nous sommes appelés, c'est à ça qu'on doit aspirer finalement. Alors après tout ça, on comprend que Jacques dit que la langue est difficile à dompter. Versets 7 et 8, Jacques dit « L'être humain est capable de dompter toute espèce de bête sauvage, d'oiseaux, de reptiles et de poissons. » Dompter des poissons. Et en fait, il les a domptés. Mais personne n'a jamais pu dompter la langue. Elle est mauvaise et sans cesse en mouvement. Elle est pleine d'un poison mortel. On comprend qu'il dise ça. Cette difficulté à maîtriser la langue, elle conduit Jacques à faire un constat. Versets 9 et 10. Nous l'utilisons pour louer le Seigneur, notre Père, mais aussi pour maudire les êtres humains que Dieu a créés à sa ressemblance. Des paroles de louange ou de malédiction sortent de la même bouche. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Jacques est en train de dire, ça ne doit pas exister entre nous. Ce n'est pas possible que des paroles fassent du mal quand on est ensemble. Entre frères, entre sœurs, enfin entre nous. La relation que j'ai avec Dieu doit nécessairement se manifester dans la relation que j'ai avec les autres. Si je bénis Dieu, alors logiquement, je bénis les autres. Je ne vais pas dire du mal d'eux, je ne vais pas dire du mal sur eux. Si je dis du bien de Dieu, je ne peux pas logiquement dire du mal de quelqu'un d'autre. Une situation, là Marido, elle m'a rendu service, elle m'a rendu un fier service, je sais, n'importe lequel, quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé. Et moi, spontanément, ce que je vais faire, c'est naturel, je vais la remercier, je vais dire merci Marido, parce que là, dis donc, tu m'as vraiment aidé, j'étais dans une mauvaise passe, je ne savais pas comment tirer de cette situation, et toi, je te l'ai demandé, et puis t'as agi par amour pour moi. Tu m'as aidé, tu m'as sorti de ce mauvais pas. Et puis, dans la même conversation, donc, on voit Jacques. Et puis, Jacques, je lui dis, Jacques, tu m'énerves vraiment, tu me prends la tête, j'aime vraiment pas ta personnalité, tu me casses les pieds, enfin vraiment, j'aime pas la façon dont tu t'habilles. Je dis ça devant Marido. Il va forcément y avoir un problème. Comment elle va réagir, Marido? Ça va la blesser, ça va la toucher. Et bien, quand on parle mal de quelqu'un, ça fait la même chose dans le cœur de Dieu. Si je parle de Dieu, si je le remercie pour tout ce qu'il m'a donné, pour tout ce qu'il me fait vivre, et que dans sa présence, puisqu'il est toujours avec nous, je parle mal à quelqu'un, c'est pas logique, c'est illogique, complètement illogique. Jacques dit au chapitre 4, « Frère, ne dites pas de mal les uns des autres. Celui qui dit du mal de son frère ou qui le juge dit du mal de la loi de Dieu et la juge. » Donc ne dites pas, ne prononcez pas de paroles qui disent du mal des autres. La relation que nous aurons chacun avec Dieu, elle inspirera la qualité de nos paroles. Quand on fréquente quelqu'un qu'on aime, quand on fréquente quelqu'un qu'on apprécie, on a toujours tendance à lui ressembler, à adopter son point de vue. Mais même des fois, c'est sur les gestes qu'on utilise, la façon de se comporter et la façon dont on parle aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, notamment chez les hommes politiques. Les proches de Nicolas Sarkozy, ils ont les mêmes mimiques que Nicolas Sarkozy. C'était la même chose avec François Mitterrand. Tous ceux qui étaient admiratifs de François Mitterrand, ils ressemblaient à François Mitterrand. C'était, Il y avait un ministre ça m'avait frappé, c'était Roland Dumas en particulier, parce qu'il mettait exactement les mains comme François Mitterrand. Vous voyez, quelqu'un qu'on admire, quelqu'un qu'on aime, on va avoir tendance à lui ressembler, on va avoir tendance à parler comme lui. Et bien avec Jésus, c'est pareil. Avec Dieu, c'est pareil. Si j'aime Dieu, je vais parler comme Dieu. Si j'aime Dieu, je vais me laisser inspirer par son exemple, par ses paroles. C'est vraiment ce qui se passe quand on fréquente Dieu. Il va influencer notre nature. On s'influence les uns les autres par les paroles que nous prononçons. Mais si on fréquente Dieu, il va nous influencer au niveau de notre nature. Il va influencer non pas simplement nos paroles, mais notre cœur. Et on a compris que c'est la disposition de notre cœur qui donne la qualité de nos paroles. Jacques, il a bien compris ça. Et c'est pour ça qu'il écrit, on va terminer là-dessus. Tiens, Guillaume, tu veux bien reprendre la guitare, s'il te plaît. Aucune source ne donne par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Aucun figuier, mes frères, ne peut produire des olives. Aucune vigne ne peut produire des figues. Une source d'eau salée ne peut pas donner de l'eau douce. J'aimerais vraiment qu'on médite ces paroles-là. Parce que ça, ce sont des paroles qui vont influencer notre façon d'envisager nos paroles. Ce que nous allons dire, nos propres paroles. Une source ou un arbre ne peut pas être contraire à sa nature. Il va donner le fruit qui est conforme à sa nature. Si on est chrétien, il est logique d'avoir une nature qui correspond à ce qu'est un chrétien. Si nous aimons la parole de Dieu et si nous voulons nous fonder dessus pour notre vie, eh bien, ça va avoir un impact, ça va transformer mon cœur, ça va transformer ma nature et ça va m'aider à avoir des paroles, des bonnes paroles. Jacques est en train de dire que seul un cœur renouvelé peut produire des paroles pures. Seul un cœur renouvelé peut produire des paroles de bénédiction. Seul un cœur renouvelé, un cœur là qui s'ouvre à Dieu, peut avoir des paroles d'encouragement, peut avoir des paroles mesurées, des paroles vivifiantes, des paroles qui vont faire du bien, des paroles qui vont être le fruit de l'écoute et non pas du jugement, le fruit de la compréhension de l'autre et pas simplement l'expression de mes impressions. Les uns et les autres, peut-être qu'en entendant cela, on peut saisir un peu mieux l'impact de nos paroles. J'aimerais vraiment qu'on puisse se recueillir maintenant. On va reprendre, si je notais. Déjà, dans un premier temps, avec la musique, parce que je voudrais vraiment qu'on voit là et qu'on mesure vraiment quel est l'impact de nos paroles. Nos paroles, elles peuvent faire du bien, nos paroles, elles peuvent faire beaucoup de mal. C'est vrai dans le groupe de jeunes, c'est vrai dans l'église, et c'est vrai auprès de nos amis, c'est vrai dans notre famille. Des paroles qu'on a pu prononcer, qu'on a adressées à sa mère, qu'on a adressées à son père, qui ont pu être terribles, qui ont pu être très blessantes. Il y a des paroles que j'ai pu dire, et que j'ai prononcées là à l'égard de mon frère ou de ma sœur, dans ma famille j'entends, et qui ont pu être désastreuses, des paroles désastreuses. Des paroles, des réflexions, des remarques, des vannes que j'ai lancées et qui ont fait mal, qui ont touché mes amis. Et je sais que ma relation, elle n'est plus la même. Des paroles que j'ai dites, que j'ai prononcées même peut-être même dans le groupe de jeunes. Et je sais que ça a eu un impact négatif. Alors je voudrais vraiment qu'on se place devant Dieu maintenant, avec sincérité. Avec honnêteté. Pour qu'on ait la possibilité d'avoir une autre nature, d'avoir une autre disposition. Nous sommes appelés à construire quelque chose de grand, je le crois vraiment, quelque chose de différent, quelque chose qui n'existe pas autour de nous. L'Église, elle est appelée à être différente. Le groupe de jeunes est appelé à être différent de n'importe quel autre groupe de jeunes, n'importe quel autre club, n'importe quelle autre occasion de se rencontrer. Et ça ne peut se faire que si ma nature elle change. C'est là que ça doit se jouer. Alors on va se placer vraiment devant Dieu. Je vous invite vraiment à faire monter cette prière devant Dieu. Peut-être que là tu te souviens de ce que tu as dit. Tu te souviens de cette parole qui a blessé quelqu'un dans ta famille. Tu te souviens de cette manière dont tu
avec laquelle tu as remis en cause l'autorité de tes parents.
Et tu sais que ça leur a fait mal. Tu te souviens de cette parole blessante, cette parole condamnatoire, ce jugement que tu as porté sur quelqu'un. Alors place-le devant Dieu. Dieu, il n'est pas là pour nous juger, il n'est pas là pour nous condamner. Il est là pour nous pardonner et pour qu'on puisse vivre quelque chose de différent. Peut-être que toi, ça te paraît impossible de maîtriser tes paroles. C'est incontrôlable. Mais tu vois qu'avec l'aide de Dieu, c'est possible. Avec l'aide de Dieu, tu peux avoir des paroles de bénédiction. Avec l'aide de Dieu, tu peux avoir des paroles vivifiantes, encourageantes. Et c'est tellement important qu'on vive ça les uns et les autres, les uns avec les autres. C'est tellement important d'avoir une parole différente qui montrera au monde que tu es différent, que Jésus est dans ta vie, que Dieu est dans ta vie. Alors fais monter cette prière, vraiment de ton cœur, du plus profond de ton cœur, parce que Dieu l'entend.